culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour et bienvenue à notre culte espoir. C'est un plaisir de te retrouver, cher auditeur, chère auditrice, pour vivre ce temps de culte ensemble. Alors, ce que l'équipe culte espoir met derrière le mot culte, c'est un temps spécial avec Dieu, pour Dieu, à travers différents moments, des temps de chant de louange, des temps de réflexion, de témoignage, de prière, d'encouragement, d'auto-interdivin coaching, pour s'encourager les uns les autres à grandir dans notre foi et à donner de plus en plus de place à Jésus dans nos vies. Alors c'est l'été, peut-être que tu nous écoutes depuis ton bungalow au milieu des tropiques ou à côté de ton ventilo sur le canapé ou dans la clim dans ta voiture, tu as rejoint l'équipe Espoir un peu comme une famille pour une heure ensemble. Alors avec moi justement, deux gentlemen, Brian et Stéphane, bienvenue.
Merci.
Merci.
Comment se passe votre été ?
Chaud,
très chaleureux.
Oui, j'étais sûre que vous alliez répondre. Et notre invité du jour, Frédéric Juillot. Mildred t'a rencontré à l'église adventiste de Collonges-sous-Salève, en Haute-Savoie. Tu y dirigeais une discussion étude autour de la Bible dans un temps qu'on appelle dans le patois de chez nous l'école du sabbat. Et elle nous a dit « Il faut absolument qu'on l'invite !» Alors te voici qui a accepté notre invitation. Un grand, grand merci. Pourrais-tu te présenter en quelques mots ?
C'est avec grande joie, effectivement, que j'ai rencontré Mildred et puis que je suis présent ici aujourd'hui.
Trop chouette.
Je m'appelle donc Frédéric et je suis marié et je suis papa de 4 enfants.
Waouh !
Oui, j'ai 2 garçons et 2 filles.
Excellent.
Voilà.
Eh bien, merci d'être là avec nous. Et puis, de quoi tu vas nous parler ?
Eh bien, je vais vous parler de la patience de Dieu.
Oui, c'est un vaste programme. Et alors, il va falloir rester pour écouter, découvrir ta réflexion dans quelques minutes. Eh bien, je prie pour débuter ce culte, pour que le Seigneur nous remplisse de sa présence, qu'il guide nos échanges, nos réflexions, qu'il dispose nos cœurs et celui des auditeurs, des auditrices, afin que nous puissions tous grandir, être édifiés, être inspirés par l'Esprit et honorer Dieu pendant ce temps de culte. Alors Stéphane, pour notre chronique « Dieu dans ma semaine », qu'as-tu envie de nous partager ?
Je veux partager une réflexion que j'ai eue suite à une situation que je pense que la plupart des gens ont déjà eue, surtout ceux qui ont déjà des enfants, que j'ai vécu avec mon fils, un de mes fils. Je lui ai demandé de ranger ses affaires, sa chambre.
Ça, c'est 15 millions de fois dans votre vie, ça, en tant que parent, non ?
Oui, en plus, il est parti le faire. Donc très bien.
C'est pas mal.
Mais après 10 minutes... C'est le silence.
C'est suspense, hein.
Le silence suspect.
C'est déjà fini.
Ah, c'est bizarre. Donc, je décide d'aller le voir. Et, surprise, il n'a toujours pas rangé ses affaires. Au lieu de ça, il était en train de jouer. À ce moment, je vis rouge. Là, la patience n'existait plus. Hein. Zéro, hein. Rien du tout. Je suis même énervé. Oh là là. Après avoir respiré, et surtout après un peu plus de calme, je me suis fait la réflexion. Si Dieu avait le même niveau de patience que moi à ce moment-là, et si pour un rien, il perdait patience, il s'énervait, comment il aurait-il réagi face à mes erreurs ? Quelles seraient les conséquences pour nous, les êtres humains, si Dieu n'avait pas la patience que moi ? Heureusement que Dieu n'est pas comme nous. Heureusement que Dieu est amour, il nous aime, et heureusement qu'il a beaucoup plus de patience que nous. Ce que j'ai appris de cet épisode, c'est de suivre l'exemple que Dieu nous a donné. D'être patient avec les autres, surtout ceux qu'on aime le plus. Parfois, c'est là qu'on a moins de patience. Dieu est amour, et comme il écrit dans le 1 Corinthiens 13, 4, l'amour est patient. Il a plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il s'enfle pas d'orgueil. Essayons de suivre l'exemple de Dieu.
Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée, sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, l'eau pure qui désaltère. Nous reconnaissons.
Être patient avec soi-même, avec les autres, dans les circonstances parfois bien sinueuses de nos vies, c'est un bon défi qui semble parfois pas un peu surhumain. D'ailleurs, la promesse du jour que j'aimerais te partager montre que cette patience, qui dépasse parfois nos propres forces, on peut la demander à Dieu. Alors, ça se trouve dans Galates, chapitre 5, verset 22. Voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Et oui, on peut demander la patience à Dieu parce que Dieu est patient, comme nous allons le voir aujourd'hui. Il est généreux et il offre et guide celui qui demande selon les volontés de Dieu.
Auditrice, auditeur, aujourd'hui nous mettons à l'honneur la patience de Dieu. Comme tu le disais tout à l'heure, Stéphane, Dieu est patient avec moi, il est patient avec toi, il ne s'impose pas. Il nous laisse faire des choix qui ne sont peut-être pas toujours les bons, mais à chaque fois, il est là, il patiente avec un amour qui dépasse toutes mes conceptions. Alors pour ce moment de louange, je te propose d'écouter une chanson de Be Right, un rappeur qui exprime et expose si bien ces moments, ces situations dans lesquelles nous pouvons vivre avec Dieu. Mais sans plus attendre, je te laisse écouter cette chanson qui s'intitule « Bon berger ».
Je ne sais plus où aller. Je ne sais plus où aller. Qui pourrait encore m'aimer? Qui pourrait encore m'aider? Je ne sais plus.
Je ne sais plus où aller.
Je ne sais plus où aller.
Je ne sais plus.
Qui pourrait
encore m'aider?
Je me le demande, qui pourrait?
Qui pourrait encore m'aider?
Yo, Seigneur Jésus, je suis love, love de toi dans mon cœur, mais parfois je m'égare, chaque fois ça m'écœure. J'aimerais tellement te plaire, je voudrais te donner tout, mais face à certains défis, j'ai souvent fait demi-tour. Avant d'avoir soif de gloire, j'ai d'abord soif de toi. Mon plus grand désir, c'est qu'à travers moi les hommes te croient. Mon plus grand désir, c'est qu'à travers moi les hommes te voient. J'aimerais que ma vie soit le témoignage de tout ce qu'est un homme de foi. Je me souviens le nombre de fois où je t'ai promis que ce péché que j'avais commis cette fois, ce serait la dernière fois. Pourtant j'y suis retombé, j'avais si honte de moi, mais chaque fois tu m'as relevé en me disant que je compte pour toi. Aujourd'hui je compte sur toi, change ma vie, ne me laisse pas mépriser les cicatrices des coups que tu portes sur toi. S'il convient de souvenir de la mémoire de ceux qui sont morts,
qu'en sera-t-il de celle de celui qui a vaincu la mort?
Non Père, je t'en prie, ne me laisse pas oublier que Christ reviendra un jour, n'est-ce pas? Chercher son épouse, pas toute l'église reste sage. Et souviens-toi de l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Fais de moi une vierge sage, tout près du ressuscité. Faire partie des prémices du réveil que Dieu veut susciter. Prêcher sans se précipiter, briser toute iniquité, jusqu'à ce que croire en Dieu pour l'homme redevienne une nécessité. Je veux croître en intimité, afin de t'imiter. Une copie parfaite, en grâce et en dignité. Vivre dans l'unité, croire sans te limiter. Mourir à moi-même pour donner gloire à la Trinité. La vraie vie n'est pas extérieure, dans le pire faut que tu restes Seigneur. Et sur mes terres sois le seul semeur. Oui Père, que ta lumière me cache, je ne lâche pas prise jusqu'à ce que l'emprise du diable me lâche. Car tu m'as aimé au prix du sang versé. Je t'aime au point de faire du rap, quitte à le faire sans percer. La gloire m'intéresse pas, je suis prêt à boire la tasse, pourvu que tu m'accordes la grâce un jour de voir ta face. Je t'aime tant et j'aimerais aller plus loin, mais j'ai tant d'iniquité, je suis loin d'être l'homme le plus loin. Même si ta loi je l'ai souvent transgressée, tu m'as aimé au point d'accepter de te faire transpercer. Je veux saisir chaque opportunité de marcher avec Jésus dans une forte unité. Car depuis qu'il est ressuscité, il intercède sans cesse auprès du Père de façon illimitée. Je sais qu'il m'aime et je veux aller plus loin, et qu'il peut me purifier et faire de moi un pur roi. J'ai décidé de ne plus qu'en berger. Je serai cette brebis qui va faire de Christ son bon berger.
Jésus.
Jésus est le bon berger.
Jésus est le bon berger.
Mais
ce
peut encore m'aider.
Jésus est le bon berger.
Mais ce peut encore m'aider.
Auditeur, auditrice, tu es dans la chronique Dieu agit. Et je te propose d'écouter le témoignage de Maëlys, une fan incontestée de Dieu, qui parle de son expérience avec lui. Mais je ne te dis pas un mot de plus et je te laisse écouter la suite.
Je m'appelle Maëlys, j'ai 31 ans. Je suis une heureuse fille de l'Éternel, rachetée en Jésus-Christ, et une épouse comblée, l'épouse d'Hervé, avec qui j'ai le bonheur de pouvoir travailler. Yes. Merci Seigneur pour ça. Et puis voilà, on travaille dans un bureau qui œuvre dans le domaine de la mobilité durable. Mais comme tu l'as dit, la première personne de ma vie, mon premier amour, c'est Jésus, que je connais en quelque sorte depuis que je suis petite parce que je suis née dans l'église, mais on va dire avec lequel j'ai construit ma relation il n'y a pas tant de temps, aux alentours de l'âge de 24 ans.
Ah ouais.
Où même si j'allais à l'église, il a fallu qu'il vienne me chercher. Et à un moment donné, j'ai fait cette rencontre cœur à cœur avec mon sauveur. Et c'est là qu'il est devenu absolument tout pour moi. Et que, voilà, c'est pour lui que je vis. Il est mort pour moi et c'est ma vie, elle est pour lui aujourd'hui. Si, je vais peut-être parler d'une situation en particulier, qui d'ailleurs n'est même pas une situation de quelques jours, c'est une situation de plusieurs années.
Ça tombe bien.
Pour parler de la patience de Dieu, ça tombe bien. En fait, quand j'étais adolescente, donc assez jeune même, je crois vers l'âge de 11-12 ans, j'avais déjà décidé de comment serait tracée ma vie. Donc j'avais tout déterminé en avance, de manière pas très étonnante, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu. Mais quand je suis sortie du bac, je suis quand même rentrée dans la voie que je m'étais tracée, tout ce que j'avais organisé en avance. Donc je suis rentrée dans les études que je voulais faire. Ça s'est pas passé comme prévu. Et finalement, j'ai eu un parcours, on va dire, d'études complètement chaotique. J'ai fait 3 formations différentes et cumulé, j'ai fait 9 ans d'études. Okay. Ma dernière formation... qui m'a attirée alors que j'étais en plein dans ma deuxième formation. Aujourd'hui, j'y crois. Dieu m'a ouvert les portes pour cette formation. Je pense que s'il n'était pas intervenu, j'aurais même pas pu rentrer dedans. Mais il est intervenu d'une manière divine, qui est Dieu, pour que je puisse l'intégrer. J'ai suivi cette formation. À la fin de la formation, il m'a même permis d'obtenir un stage dans ce domaine qui correspondait à tous les critères que je lui avais demandé. C'était Dieu, ça venait de Dieu, c'était sûr. Et même aujourd'hui, je sais que c'était lui. J'ai commencé ce stage, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était horrible, en fait. J'ai horriblement mal vécu ce temps. Et puis le Covid est arrivé, comme on le sait, ça a été compliqué pour pas mal de domaines, et du coup, ils ont mis fin à mon stage, parce qu'ils licenciaient quelques personnes, et puis j'étais la dernière arrivée. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été un gros coup dur pour moi. 9 ans d'études, tout le monde avait déjà un travail autour de moi, tout le monde avait déjà bien entamé sa vie, moi je repartais dans l'inconnu, l'incertitude, j'ai été submergée de doutes, de remise en question, de culpabilité aussi, parce que vis-à-vis des codes de la société, j'étais complètement à la bourre. Et là, en fait, Dieu a travaillé mon cœur pour me faire comprendre que les objectifs que je m'étais placés dans ma vie, les ambitions que j'avais, et presque l'identité que je m'étais créée en fonction... peut-être inconsciemment des gens qui m'entouraient, des codes sociaux, et de, je sais pas, peut-être mes parents aussi, leur modèle ou quoi. Cette identité que je m'étais créée, elle avait rien à voir avec ce que Dieu avait fait de moi. Et du coup, il a travaillé mon cœur pour me faire prendre conscience que là où j'étais, c'était pas là où je devais être, et c'est pour ça que j'étais pas bien. Et j'ai dû renoncer, finalement, à toute cette vie que je m'étais créée. Et par sa grâce, par la force qu'il m'a donnée, j'ai pu assumer ça, et enfin commencer à le, on va dire, lui remettre mes choix, de sorte à ce que ce soit lui qui trace ma vie. Et en fait, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, mais mince, il m'a laissé aller dans la direction que je voulais prendre. Alors, quand j'étais jeune, je ne le concertais pas, je n'avais pas de relation avec Dieu, même si je savais qu'il existait. Du coup, j'avais tout décidé ce qu'allait être ma vie. À aucun moment, il est venu s'opposer à mes choix. À aucun moment, il est venu me confronter et me dire « Non, non, j'ai un plan pour toi, je suis Dieu, je sais quand même mieux que toi hein, ce qui est bien pour toi ou pas, donc tu vas faire comme ça. » Et quand je me dis que finalement, même pour ma dernière formation, il est venu tout ouvrir pour que je puisse aller dedans alors que c'était pas ce qu'il avait prévu pour moi, je me dis « Mais Seigneur, t'es juste venu respecter mon choix et même y participer. » Pour que je puisse entrer dans quelque chose qui allait peut-être à l'inverse de ce que tu voulais. Il a même utilisé cette formation pour développer en moi des compétences dont il va se servir aujourd'hui pour son royaume. Mais il n'est jamais venu avec un non frontal, c'est ça, en me disant « Non, ma fille, c'est pas ça que je veux pour toi. » Et c'est hallucinant parce que ça a pris des années. Moi, on peut se dire que c'était 9 ans d'études, mais je pense que le processus, il a commencé bien avant. Et c'était hyper long. Moi-même, dans cette situation, je me demandais ce que je faisais. Et en me retournant, je me dis « Mais Seigneur, c'est plus de 10 ans où toi, t'as attendu que je veuille bien regarder à toi, attendu que je veuille bien chercher ta voix, en fait. » Et quelque chose de très étonnant que je lis dans la parole, c'est... on va dire la fréquence très élevée de fois où Dieu il nous demande de le chercher. Ouais. C'est un Dieu dans la parole, j'ai pas compté, j'ai pas fait le calcul, mais il y a énormément de fois où il dit cherchez-moi. Et je me dis, mais le principe même de chercher quelque chose, c'est bien que cette chose n'est pas à portée de main ou visible, parce que sinon on n'aurait pas besoin de la chercher. Le fait de devoir chercher, ça demande de la persévérance, parce qu'il va falloir attendre un peu avant de trouver cette chose. Et la persévérance, c'est pas une qualité inhérente à l'être humain, et Dieu le sait, puisqu'il nous connaît très bien. Et je me dis que s'il n'était pas patient, il ne nous demanderait pas de le chercher, parce que honnêtement, ça peut prendre toute une vie pour ne serait-ce qu'à se mettre à le chercher concrètement, ou à entrer vraiment dans cette dynamique quotidienne de recherche de son Dieu, et on va pas se mentir, on cherche un jour, et puis le lendemain on se lasse parce que c'est pénible, on arrête. Tout comme le peuple d'Israël, on fait des va-et-vient. C'est un peu ping-pong, cette vie avec Dieu. Et lui, il est là, et il attend juste cette chose. C'est que finalement, même si on a choisi de marcher dans nos propres voies, de faire nos propres choix, et qu'on n'a pas décidé d'aller dans ce que lui voulait pour nous, je dirais que finalement, on est souvent là à chanter les louanges de Dieu à l'église, ou à proclamer même dans nos prières... qui il est pour nous, alors des paroles qui viennent de la Bible, ce qu'on peut entendre à l'église, mais souvent dans notre quotidien, quand on est confronté à des situations, des épreuves, des moments compliqués, c'est comme ce qu'on peut déclarer sur lui ne se reflète pas dans ce qu'on croit de ce qu'il est. Et je crois que souvent Dieu n'est pas celui qu'on croit qu'il est, et ça peut être intéressant de le sonder, de lui dire « Papa, dis-moi ce que tu dis de moi ». Parce que tu n'es pas ce papa intransigeant, culpabilisateur, que des fois on peut avoir l'impression, on se met la pression nous-mêmes finalement. Et Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi dans ta réalité à toi ? Fais-moi entendre la manière dont tu me considères pour que je puisse entrer dans ta vision sur moi, pour que je puisse clairement reconnaître mon identité en toi et l'amour que tu me portes, et pour qu'on puisse aussi dans cette recherche de notre Dieu être réconcilié avec sa vraie nature et la vérité de ce Dieu merveilleux qu'il est, et qui, honnêtement, si Dieu était pas patient, on discuterait même pas aujourd'hui, ça serait pas possible. Et voilà, pour moi, c'est la personne la plus respectueuse qui soit, parce que alors même qu'on est peut-être dans une situation qui nous semble tellement éloignée de la sainteté de Dieu, même là, il va venir nous chercher, même là, il va venir à notre hauteur pour nous attirer à lui. Et franchement, il n'y a pas plus respectueux et plus patient que notre Dieu.
Merci beaucoup, Maëlys, pour ton témoignage.
Merci à toi.
Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Oh oh oh, oh oh.
Alors Frédéric, pourquoi tu as choisi ce thème ?
Ben écoute Amandine, j'ai voulu me pencher sur le caractère de Dieu pour essayer de le connaître plus profondément. Et je me suis dit, il a une caractéristique qui est formidable, c'est qu'il est patient. C'est vrai que nous, ce n'est pas toujours le cas. On a tous nos limites hein, avec les enfants, comme on a vu avec Stéphane. Ça peut être avec d'autres personnes, les beaux-parents, des fois ils sont intrusifs, etc. Et donc, on peut aboutir, à, lorsqu'on est impatient, à abîmer des relations, parce qu'on se met en colère, par exemple. Et donc, voilà, la patience est quelque chose de vraiment important. Et puis la patience, ça a aussi un aspect qui n'est pas juste par rapport à une situation qui nous paraît difficile par rapport à un individu, mais aussi on peut avoir de l'impatience, par exemple, lorsqu'on attend la personne que l'on aime et qu'on sait qu'on va la retrouver, mais que dans 2 semaines, c'est long. Est-ce qu'on est patient à ce moment-là ? On n'est pas forcément patient. Et voilà, donc la patience a plusieurs aspects et Dieu a tous ces aspects en lui. Et on voit ça notamment au travers du psaume 103, versets 8 à 10, qui nous dit que l'Éternel est miséricordieux et compatissant,
lent à la colère. Donc lent à la colère, ça veut dire qu'il est doux et réfléchi, qu'il ne s'emporte pas, qu'il est maître de lui-même. Il est riche en bonté, il ne conteste pas sans cesse. Alors il ne conteste pas sans cesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il laisse chacun libre de ses pensées et de ses actes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans un échange, on peut escalader la situation. Et Dieu n'escalade pas la situation. Dieu, effectivement, on peut faire des erreurs. Il nous laisse faire une erreur. Et puis après, il nous laisse du temps pour nous en rendre compte. Il ne garde pas sa colère à toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pardonne. Et il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait grâce. Donc on voit déjà dans ces quelques phrases toute l'ampleur de l'amour de Dieu et de cette patience, comment elle se concrétise, comment elle se matérialise. Alors quel exemple, Dieu, mais comment fait-il?
Moi aussi,
il est parfait, voilà. Mais moi aussi, je veux être patient comme lui. Pourtant, je ne suis pas très impatient de caractère, mais on a chacun ses limites. Alors déjà, pour bien comprendre ce qu'est la patience, il faut aussi comprendre ce que ça n'est pas. Alors la patience, ce n'est pas de l'indifférence ou du délaissement. Ce n'est pas que Dieu dit, oh là là, ça y est, celui-là, c'est fichu, je le laisse de côté, il ne m'intéresse plus. Non, pas du tout. La patience, en fait... En français, ça vient du mot « pâtir », c'est-à-dire « souffrir ». Et effectivement, Dieu, il souffre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se met dans une situation, une situation qui n'est pas celle qu'il souhaite, comme il nous aime, il voit les tristes conséquences de nos comportements erronés. Et à ce moment-là, Dieu souffre. Donc, dans la patience, il y a de la souffrance. Et donc, il faut bien savoir que finalement, quand on est patient, pour être patient, il faut savoir qu'il va falloir accepter de la souffrance. Dieu accepte cette souffrance. Et la souffrance, dans le grec, dans la Bible, ça correspond au terme grec de makrotoumia. Et il y a un premier concept de la patience. Et puis, il y a un deuxième concept de la patience qui vient du grec upomone, qui signifie la persévérance, l'endurance, c'est-à-dire la capacité à attendre sans se lasser. Et ça, c'est plutôt la personne aimée que l'on attend sans se lasser. Et voilà. Et donc, c'est ce que fait Dieu. Dieu, il est patient, il nous laisse du temps sans se lasser. Pourquoi? Parce qu'il nous aime et qu'il est confiant dans notre capacité à progresser et à faire des meilleurs choix. Voilà. Et puis, il essaye de nous influencer aussi par son Esprit Saint à essayer de faire des meilleurs choix. Alors, quels exemples on a dans la Bible de la patience de Dieu? Eh bien, la patience de Dieu, elle a déjà commencé avec Adam et Ève, auquel il avait dit dans Genèse 2, verset 17, « Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, certainement, tu mourras. » Et oui, effectivement, ils sont morts, mais en attendant, dans Genèse 5, verset 5, on apprend qu'Adam, il a vécu 930 ans. Donc Dieu, il a quand même été patient. Il s'est pas mis dans une colère noire, et puis il les a pas exterminés avec un rayon laser, là. Voilà, il a quand même attendu 930 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 930 ans? Il a laissé le temps à Adam et Ève de réfléchir, de voir les conséquences de leurs erreurs, éventuellement de pleurer sur leurs erreurs, de se repentir et de changer d'attitude, de changer de comportement. Et donc voilà, donc dans cette patience, pendant cette souffrance de Dieu, il s'attend aussi à ce que nous, on comprenne nos erreurs et qu'on change de caractère. Alors Dieu, il était patient avec Adam et Ève, il est patient avec nous. Et il n'est pas uniquement patient à un niveau individuel, c'est ça qui est aussi intéressant. Il est aussi patient à un niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de l'humanité tout entière. Et ça, on le voit au travers de la patience qu'il a eue dans la Bible avec le peuple hébreu. Donc là, ce n'était pas un individu, c'était tout un peuple. Et quelle était cette patience avec le peuple hébreu? Le peuple hébreu avait juré fidélité à Dieu. Dans Exode 19, verset 8, le peuple avait dit « Oui, oui, nous respecterons tes commandements, tu es notre Dieu et nous t'aimons et nous allons faire tout ce qu'il faut pour être un peuple modèle, voilà, par rapport aux autres peuples. » Et évidemment, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque le peuple hébreu, il est tombé plusieurs fois et puis il a renié Dieu plusieurs fois. Parce que par exemple, juste après avoir été libéré de l'esclavage en Égypte, hein, d'être passé au travers de la mer Rouge. Donc c'était quand même des miracles.
Des miracles incroyables.
Et donc là, le peuple, il voyait quand même que Dieu était puissant, qu'il était avec lui, et que finalement, ça valait quand même le coup de respecter les commandements de Dieu. Eh ben non, c'est pas ce qu'ils, pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait juste après ça? Ils se sont plaints. Et puis, lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller justement chercher les commandements, eh bien, le peuple s'est fait un veau d'or à idolâtrer. Voilà. Donc ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont décidé de se dire... Voilà, c'est qui ce Dieu-là? Nous, on est un peu impatients, parce que là, pour le coup, Moïse, ça fait 40 jours qu'il est sur la montagne. Dieu, il ne s'occupe pas vraiment de nous. Le peuple a été impatient. Voilà, le contraire de tout, tout le contraire de ce qu'est Dieu. Et voilà, et donc, ils ont abandonné Dieu. Bon, mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? Est-ce que Dieu s'est mis en colère?
Oui.
Il s'est quand même mis en colère, hein. Mais. Donc, il s'est mis en colère, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Moïse, je vais les détruire, je vais les exterminer. Et Moïse a dit, s'il te plaît, Seigneur, extermine-moi, mais extermine pas le peuple. Donc, en fait, est-ce que Dieu était... quel était le niveau de colère de Dieu? C'est surtout, en fait, qu'on peut penser que Dieu était un peu plus en train de tester un peu Moïse, mais que Dieu n'avait pas l'intention d'exterminer tout son peuple. Et puis, d'ailleurs, on voit bien qu'il ne l'a pas fait et que le peuple hébreu est tombé plusieurs fois comme ça. Il a idolâtré de très nombreuses fois. On a des exemples de rois aussi... de rois du peuple juif qui ont idolâtré. Il y a un roi qui a, par exemple, brûlé son enfant vif pour aux autres dieux. Voilà. Donc, voilà, le peuple s'est écarté de Dieu plusieurs fois, mais Dieu est revenu. Voilà. Alors, Dieu est patient parce qu'il nous aime. Il est prêt à nous pardonner nos péchés. Cependant, il ne tolère pas le péché. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que sa patience, elle a quand même des limites? Eh bien, que nous dit la Bible? Alors, la Bible, dans Exode 34, versets 6 et 7, on a Dieu qui s'adresse à Moïse et qui lui dit « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » On retrouve un petit peu le psaume. Hein, « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Alors, cela signifie que Dieu punit ceux qui restent dans le péché, ceux qui s'y complaisent, qui finissent par le transmettre un peu en intraveineuse à leurs enfants, et c'est ce qu'il faut comprendre par la punir les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération, c'est-à-dire que le péché, on le transmet. Hein. Lorsque les parents ou des grands-parents ont un comportement par nature pécheur, les enfants, ils le voient et ils l'assimilent, malheureusement. Hein. Donc, mais Dieu est patient, car il nous laisse le temps de prendre conscience de nos péchés, de leurs terribles conséquences, mais il veut quand même que nous en sortions. Voilà. Alors, il pardonne ceux qui reconnaissent leurs erreurs et qui, le cœur brisé, reviennent à leur mauvaise voie, qui changent radicalement, autrement dit en langage biblique, qui se repentent. Alors, c'est aussi ce que nous dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains, chapitre 2, versets 7 et 8, où il nous dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longue attente, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Voilà, donc Dieu, il est patient, mais il attend à ce que nous nous repentions. Et moi, ça me fait penser systématiquement à Apocalypse 14, verset 7, qui nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » C'est-à-dire qu'on ne joue pas quand même. Dieu, il est patient, mais effectivement, il y a quand même, à un moment donné, un jugement. Et de quelle façon est-ce qu'on veut être jugé, hein? Et donc, Romains 2, verset 8, nous dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Voilà, donc on a deux camps qui s'opposent, on a le bien et le mal, hein. Il n'y a pas un entre-deux. À un moment donné, il faut décider de choisir. On ne peut pas se dire, bon, là, je fais bien, ça va, là, je fais mal, mais ce n'est pas grave. Non, il faut quand même, à un moment donné, se décider d'aller vraiment à 100% vers le bien. Donc, Dieu est patient, mais il est quand même strict, c'est-à-dire intransigeant avec le péché. Pardon. Alors, si on en arrête là, on se dit, voilà, c'est quand même un peu austère tout ça.
Ça a commencé bien.
L'ambiance là, mais c'est bon. Mais... Non, mais alors, Dieu peut paraître sévère, austère, mais en attendant, c'est quoi la vraie raison à la patience de Dieu? Eh bien, la vraie raison à la patience de Dieu, c'est son amour. Pourquoi ? Parce que lui, il attend à ce que nous le découvrions et il s'attend à ce qu'on l'aime. Donc, ce n'est pas finalement une patience punition, c'est une patience amour. Il attend à ce qu'on le découvre, à ce qu'on l'aime, et il veut nous laisser du temps pour que notre amour puisse grandir pour lui. Voilà, c'est aussi cette patience, c'est nous laisser du temps pour découvrir l'amour, pour l'aimer et lui apporter cet amour et accepter aussi son amour à lui, découvrir dans tous les petits moments de notre vie qu'est-ce qui fait son amour. Mmh. Voilà, avec toutes ces bonnes raisons de l'aimer, ça peut quand même prendre du temps. Hein, c'est quelque chose qui mûrit, qui s'approfondit. C'est pas de la passion fugace, c'est quelque chose qui s'enracine dans le temps. Et l'apôtre Pierre en est un bon exemple, hein, parce que Pierre a renié Jésus 3 fois, et lorsqu'il est revenu, lorsqu'il est ressuscité, il lui a demandé s'il l'aimait. Et Pierre a dit « Oui, je t'aime », mais c'était, en termes grecs, un amour qui était un amour philéo, un amour amitié, fraternité. Alors que Dieu lui demandait s'il l'aimait d'un amour agapé, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel, désintéressé, absolu. Et Pierre n'a pas été capable de lui dire « Oui, je t'aime d'un amour agapé ». Il lui a juste dit « Je t'aime d'un amour philéo ». Qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Il lui a dit « Paix mes brebis ». C'est-à-dire qu'il l'a réhabilité, il lui a dit « Moi je t'aime, bien sûr, je t'accorde tout le temps nécessaire, je sais que tu viendras à cet amour agapé ». Et donc voilà, Dieu, il laisse du temps à chacun, y compris aux apôtres, hein, qu'on pourrait croire parfait, mais ils n'étaient pas.
Ils ont tout vu, ils pourraient.
Et voilà, et donc il nous laisse du temps pour le découvrir et pour l'aimer. Voilà, donc conclusion, Jean 4, verset 16, Dieu est amour, hein, il souffre de nos erreurs, mais par amour, il nous accorde le temps nécessaire pour nous en affliger et en revenir, et il nous laisse le temps nécessaire pour le découvrir et l'aimer à notre tour un peu plus chaque jour. Donc on peut le remercier pour cela et prendre exemple sur lui pour être aussi doux et patient avec ceux qui nous entourent.
Amen.
Amen.
Chère auditrice, auditeur, tu te trouves au Culte Espoir et nous venons d'écouter le partage biblique de Frédéric Juillot à propos de la patience de Dieu. Dieu rempli d'amour, de tendresse, de pitié, qui fait preuve de patience envers nous en respectant le temps dont nous avons besoin pour comprendre certaines choses, pour se repentir, grandir notamment dans notre foi. Alors, petit tour de table, qu'avez-vous envie de retenir, Stéphane Briand, de ce partage ? Qu'est-ce qui vous a interpellé, titillé, parlé particulièrement ?
C'est quand il a parlé de la limite, que Dieu, en gros, il n'a pas de limite, là, sa patience. Mais c'est le temps. Parce que nous, on est limité dans le temps. Donc la patience de Dieu a une limite par rapport au temps. Mmh. Il nous laisse le temps de prendre les choses, mais il y a parfois, on n'a plus le temps de se repentir. de venir vers lui.
Ok, donc, et du coup, ça a quoi comme impact sur...
Pour moi, c'est que c'est pas infini. Donc, j'ai besoin d'aller vers lui, en fait. Okay, donc... après coup, ouais, je ferai après, demain, je ferai demain.
Dieu. Ok, donc contre la procrastination, de trop se reposer sur la patience de Dieu finalement, tout sans se fait. Responsabiliser.
Parce que demain, c'est proche, il peut voir quelque chose, un accident, après, personne, mais Dieu est patient, il nous laisse le temps de l'aimer vraiment, de le découvrir, mais il y a un moment où ça va finir. Donc il faut qu'on aille tout de suite en fait.
Je te voyais, tu avais envie de réagir.
Oui, non, c'est exactement ça. Hein. Il y a cette notion de temps et il faut prendre conscience du temps que Dieu nous accorde et essayer d'être intelligent par rapport à la gestion de ce temps et puis prendre nos décisions rapidement. Ça ne sert à rien de tergiverser. Il faut essayer de prendre le temps d'écouter Dieu, mais vraiment rapidement se prendre nos décisions et avancer.
Et toi, Brian?
Moi, je suis en totale admiration. Je vois cette relation qu'il a eue avec le peuple hébreu. Je vois la relation qu'il a avec nous, la patience qu'il a. Moi, je me dis des fois un matin, quand je passe du temps avec Dieu, je me dis, ça va, Dieu, t'as pas trop galéré cette nuit. Enfin, je suis vraiment en totale admiration. Et puis, le temps aussi qui nous laisse, c'est, je pense, c'est aussi une forme de liberté quelque part, parce qu'il nous laisse nous tromper, il nous laisse aller dans des chemins. Alors, des fois, ben, il est là pour nous dire peut-être que c'est pas le bon chemin, mais il ne s'impose pas. Et voilà, ce côté-là de Dieu qui est toujours, qui ne s'impose pas et qui respecte nos choix et qui nous laisse libres finalement, mais qui veut dans sa patience, il s'impatiente à nous, il s'impatiente en fait qu'on vienne le voir et ça,
qu'on
je
l'aime.
Trouve incroyable. Ouais. Ouais. Et toi, Amandine?
Écoute, moi, c'est les toutes premières phrases que tu as dit où tu as dit que dans la patience, il y a la souffrance. Ça m'a beaucoup parlé. C'est comme si ça t'avait déverrouillé quelque chose, tu sais, parce que dans mes relations avec les autres ou dans ce que des fois j'ai envie pour mes proches et puis que je me dis mais punaise, si par exemple s'ils connaissaient Dieu et puis je m'impatiente et en fait je trouve que de comprendre que dans la patience il y a la souffrance, mais une souffrance qui est gérable parce que le Seigneur est avec nous, qui nous remplit, qui nous guide, ça m'a mis en paix finalement avec cette idée d'être en patience, d'accepter qu'il y a un peu de souffrance dedans, mais que le Seigneur aussi nous accompagne. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup touché.
Fortifier justement pour accepter cette souffrance, parce qu'il y a besoin d'être fort pour la souffrance.
Ouais.
Il nous fortifie, Dieu.
Oui, tout à fait. Et toi, alors, est-ce que le Seigneur, il t'a titillé personnellement dans ton message? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'es dit, oh, punaise, ouais?
Ah bah, sur toutes les parties du message, mais je pense que la partie la plus importante pour moi, c'est vraiment qu'il nous tire vers lui. Il veut vraiment qu'on l'aime, c'est vraiment son objectif. Il attend que ça, il attend que notre cœur en fait. Et donc c'est pour ça qu'il est patient, c'est vraiment ce qui le motive, c'est l'amour, vraiment l'amour. Donc moi, c'est la partie du message qu'il m'a inspiré, qui me touche le plus. Oui.
Amen. Et alors du coup, j'ai envie de te dire, toi, auditeur, auditrice, qu'est-ce que toi, tu as envie de retenir de cette réflexion?
Dans cette chronique Dieu de lézard, j'aimerais vous parler d'un film, The Best of Enemies, qui a été adapté du livre The Best of Enemies, Race and Redemption in the New South, de Osha Gray Davidson. Ce film relate des événements qui sont passés en 1971 dans la ville de Duran, en Caroline du Nord, États-Unis. La date et l'état sont très importants, parce que puisqu'en 1971, aux États-Unis, certains états du Sud étaient ségrégés. La population donc était séparée d'un côté les Américains blancs et de l'autre côté les Américains dits de couleur, les Noirs. Les Noirs et les Blancs fréquentaient donc des écoles différentes, des restaurants, des cinémas, des quartiers résidentiels, des parcs différents. Vous pouvez imaginer, il y avait beaucoup de conflits entre les Blancs et les Noirs. C'était très critique.
On ne pourrait pas faire l'émission d'aujourd'hui, là.
Ah non, ce n'est pas possible. Et surtout, ces événements-là, pourquoi ces événements-là? C'est surtout lié à deux personnes. D'un côté, Seppi Ellis, un homme blanc, marié, croyant, allant à l'église, un père de famille. Un exemple semble-t-il à suivre. Il est président de l'organisation nommée l'Empire Invisible des Clans Unis d'Amérique, unité 9 de Caroline du Nord, plus connue sous le nom d'aujourd'hui Ku Klux Klan. Donc c'était vraiment le responsable. De l'autre côté, il y a Anne Atwater, femme noire, élevant seule sa fille, croyante elle aussi, qui est LA militante de droit civil. Donc, elle est la porte-parole de la population de couleur de la ville. Et si on voit bien le livre, on voit le film, c'était une femme qui n'avait pas peur de s'exprimer ses convictions. Elle attaquait vraiment. Hein. Donc, un jour dans cette ville, un événement arrive qui fait vraiment tout basculer. L'incendie des écoles de couleur, des élèves de couleur. Donc, leur école part en incendie. Une partie de la population menée par Anne veut que les élèves noirs soient intégrés dans les écoles publiques. Donc, les écoles des blancs. Et bien sûr, l'autre côté, mené par CP10, ne le veut pas. Jamais une chose pareille ne pourrait arriver dans cette ville. Et même le conseil municipal donne raison à CP10. Donc, ils disent non, les noirs restent dans leur école, même moitié brûlée. Wow. On ne se mange pas. Là, toute cette histoire va jusqu'en juge. Le juge ne veut pas trop de se décider, donc il envoie Billy Riddick, un noir américain habitant au nord des États-Unis, donc les États qui sont non ségrégationnistes. Il était nommé pour organiser des débats et rencontres citoyennes appelées charrettes, qui doivent aboutir à des solutions trouvées par des représentants des citoyens de la ville, donc noirs et blancs, sur le sujet déplacement des élèves de couleur. Donc eux, ils doivent décider si les élèves de couleur vont à l'école avec les blancs ou pas.
Oui.
C'est à ce moment-là que Billy Riddick a dû faire face à plusieurs défis. Le premier a été de faire en sorte que CP Ellis, Ku Klux Klan, pas oublier, hein, et Anne, militant de droit civil, travaillent ensemble pour trouver des solutions. Tu peux imaginer s'il a eu besoin de beaucoup, beaucoup de patience, persévérance pour aboutir à un résultat. C'est pas que les deux, c'était toute la ville qui voulait faire ça. Donc CP Ellis et Anne n'ont pas eu la vie facile non plus. Hein. Comment le président du clan, Ku Klux Klan, peut travailler avec Anne, une femme noire, et vice-versa? Et aussi, ils ont besoin de patience, beaucoup de patience, de tolérance, de savoir-vivre et de respect l'un envers l'autre. Les événements s'enchaînent et des choses incroyables vont se passer. Mais pour connaître la suite et découvrir quelle était la conclusion de la charrette, il faut voir le film. Mais ce que je peux dire, c'est à quel moment Anne dit à CP Ellis une phrase qui me fait vraiment réfléchir. Je la cite, « C'est le même Dieu qui t'a créé qui m'a créé. » Et je ne peux qu'être d'accord avec elle. Dieu nous a créés tous égaux. Il faut avoir du respect, de la patience les uns envers les autres, comme Jésus nous a enseigné. D'aimer ton prochain comme toi-même, même si ton prochain est le président du Ku Klux Klan. Est-ce que quelqu'un a vu le film ?
Alors moi perso, oui.
Ouais, on l'a vu ensemble, ouais, hein, il n'y a pas très longtemps.
Tu as vu toi ? Non ? Alors c'est vrai que j'ajouterai à ton descriptif que même s'il n'est pas cité de manière explicite, je vois en trame de fond aussi la patience de Dieu qui accompagne ces deux croyants, comme tu disais, dans leur chemin pour apprendre justement à se connaître l'un l'autre, à grandir dans leur compréhension de ces versets parfois si difficiles à vivre. Aime ton prochain comme toi-même, aime ton ennemi et prie pour celui qui te persécute. Je trouve qu'en effet, on retrouve le thème de la patience, de l'amour, de la tolérance, de l'espérance dans ce film que je trouve par ailleurs très très bien joué. Et en plus, c'est une histoire vraie, donc voilà, merci pour ce partage.
Et bon film.
Merci.
Est-ce que Frédéric, tu veux bien nous unir dans la prière ?
Bien sûr. Père éternel, je veux te remercier pour ce moment que nous avons passé ensemble. Et je veux te remercier pour ta patience. Je veux te remercier parce que tu nous apprends, Seigneur, que par certains de nos comportements, nous te faisons souffrir et que tu nous laisses le temps pour comprendre nos difficultés, nos erreurs. Et surtout, au-delà de tout, tu nous aimes d'un amour immense et absolu. Je veux te remercier pour cet amour que tu nous accordes et que tu puisses mettre aussi dans notre cœur de prendre nos décisions pour t'aimer en retour. Prendre les bonnes décisions dans nos vies afin que nous puissions non seulement te plaire, Seigneur, mais aussi apporter de la joie, de la paix aux personnes qui sont autour de nous et être un exemple de patience à tous ceux qui nous entourent pour pouvoir leur apporter la paix et la joie. Merci pour ce moment de culte, Seigneur. Puisses-tu bénir chacun d'entre nous, chacun des auditeurs et nous permettre de passer une semaine radieuse en pensant à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Avant de nous quitter, il est bien entendu venu le temps de passer à l'action. Alors, je te propose une action en deux étapes. Étape numéro 1, je te propose un temps de face-à-face avec Dieu. Mets-toi dans un endroit ressourçant, calme et demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur une étape de ta vie, une facette de ta personnalité, un défi personnel dans ton passé où Dieu a fait preuve envers toi de beaucoup de patience. Demande-lui de te faire prendre conscience de comment il t'a aidé petit à petit à travers des rencontres, des lectures, des prières ou autres, à évoluer positivement, à peut-être te repentir, à changer. Prends le temps, dans le silence, d'être à l'écoute et de remercier ensuite le Seigneur pour sa patience envers toi. Étape numéro 2, c'est à ton tour d'être patient. À nouveau, prends le temps de réfléchir à une situation, une personne envers laquelle tu n'as pas beaucoup de patience. Confesse de manière précise cette situation, cette relation à Dieu. Et si tu le souhaites, demande-lui qu'il te remplisse de son Saint-Esprit pour que tu puisses faire preuve de patience. Il est probable que tu doives régulièrement refaire cette prière, mais on vient de le dire, Dieu est patient et renouvelle ses bénédictions à celles et à ceux qui lui font confiance. Alors bon courage et sois béni dans cette action. Et c'est ainsi que nous clôturons ce temps de culte. Alors merci Seigneur d'avoir été parmi nous. Merci Frédéric pour la réflexion que tu nous as proposée.
Avec plaisir.
Nous avons eu justement le plaisir de t'écouter aujourd'hui et on va avoir le plaisir de te réécouter la semaine prochaine. De quoi tu vas nous parler ?
Eh bien, la semaine prochaine, je vais vous parler de la vie en abondance. C'est un verset de la Bible qui m'a toujours énormément interpellé. Donc, on va parler de la vie en abondance que nous propose Jésus.
Eh bien, rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Merci beaucoup, Brian et Stéphane, pour vos préparations, vos partages. C'est un plaisir de vivre ces temps d'échange avec vous. Alors, soyez bénis, les amis.
Merci toi aussi.
Merci. Et puis merci, chers auditeurs, auditrices, d'avoir passé ce temps en notre compagnie. N'hésite pas à partager ce culte autour de toi afin que d'autres puissent être encouragés, bénis par ce programme. Sois tout spécialement béni, protégé, inspiré cette nouvelle semaine, rempli de la douce présence de notre Papa Céleste. Allez, à la semaine prochaine. Bye.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.